CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Bonjour tout le monde, salut Rémi.
Salut Aurélien, salut à tous. Le MAG du Tarn-et-Garonne s'intéresse aujourd'hui à l'association montalbanaise d'aide aux réfugiés, l'association AMAR, qui fera journée porte ouverte ce samedi. L'occasion de revenir en compagnie de la présidente Joëlle Gréder et de la directrice Sylvie Bernadet sur ce qu'est cette association, quel est son rôle, quels sont ses objectifs, à quoi ça sert en quelque sorte l'association AMAR. Bonjour Joëlle Gréder.
Bonjour et merci de nous recevoir.
Bonjour Sylvie Bernadet.
Bonjour.
Merci d'être là. Première question. Pour rappel, qu'est-ce que c'est que l'association montalbanaise d'aide aux réfugiés, l'association AMAR?
Alors l'association AMAR a un double objectif. C'est premièrement, et c'est le plus important, celui d'accueillir des demandeurs d'asile. Donc nous accueillons des demandeurs d'asile dans trois structures, hein, le CADA pour ceux qui sont en cours de procédure, c'est-à-dire qui demandent l'asile, le CPH c'est ceux qui ont eu le statut et qu'on aide à s'intégrer, et l'HUDA qui est de l'urgence, où on accueille des familles qui arrivent en urgence. Ça c'est notre premier volet. Et le second volet, c'est la défense du droit d'asile qu'il faut que constamment nous défendions, parce que ça fait partie des valeurs de notre pays, mais qui sont aussi souvent très fragiles.
D'accord. Comment fonctionne votre association financièrement?
Alors financièrement, nous avons des prix de journée. Nous avons des prix de journée pour le CADA, pour le CPH et pour la HUDA. Donc c'est uniquement des financements d'État.
D'accord. Donc c'est l'État qui donne une subvention en fonction du nombre de personnes prises en charge, c'est ça?
Il nous donne un prix de journée. Sylvie va nous dire combien.
Alors il y a trois prix de journée différents. Pour l'hébergement d'urgence, c'est 14 euros par personne et par jour. Le CADA, c'est 24 euros. Et le CPH, c'est 29 euros. Voilà. D'accord. Donc en fait, ce sont des dotations globales de financement qui sont versées pour l'asile par le ministère de l'Intérieur et pour l'insertion des réfugiés par le ministère de la Cohésion sociale.
D'accord. Donc avec ces seules subventions, vous faites fonctionner l'association avec aussi ses salariés, ses bénévoles.
Oui, surtout ça finance les salariés.
Nous avons 15 salariés actuellement et 32 appartements puisque nous accueillons les personnes en fait en hébergement éclaté sur Montauban. Donc nous sommes locataires de 32 appartements pour héberger 150 personnes.
D'accord. 15 salariés qui sont dans quel domaine? Des éducateurs, des assistantes sociales?
Alors, on a le pool administratif, d'accueil, comptabilité, et ensuite, effectivement, on a beaucoup de travailleurs sociaux, notamment des conseillères en économie sociale et familiale, on a une médiatrice familiale, on a aussi une psychologue, et puis un nombre d'entretiens pour accompagner les familles dans leur logement.
D'accord. Et on a une juriste, parce que la demande d'asile, affaire à des procédures très compliquées et qui changent très souvent.
Oui, parce que vous accueillez des personnes qui sont demandeurs d'asile.
Voilà, une fois qu'ils ont déposé leur dossier dans une préfecture en France, ils peuvent avoir accès à un CADA. Alors, c'est très peu qui ont accès à un CADA. Et c'est à peu près un tiers.
30%, oui.
30% qui ont accès à un CADA. Les autres se débrouillent comme ils peuvent.
Donc, c'est-à-dire un tiers des personnes qui sont demandeurs d'asile, une fois qu'ils ont déposé leur dossier, ont accès à un CADA, comme celui de Montauban. Comment cette personne va être dirigée? Pourquoi elle va être dirigée et l'autre pas?
Alors ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de
l'OFI.
L'Office
français de l'intégration et de l'immigration. C'est lui qui gère le dispositif national d'accueil. Et c'est par lui donc qu'arrivent les familles, hein, qu'elles nous sont orientées par ce dispositif, qui est un dispositif national. Voilà.
D'accord. Et qui permet, donc ce dispositif va... J'aime pas le mot, dispatcher les demandeurs d'asile sur l'ensemble des CADA au niveau national.
Nous, on ne choisit absolument pas les personnes que nous recevons.
D'accord.
C'est géré nationalement.
On parle beaucoup des quotas au niveau national de l'Europe aujourd'hui. Il y a des quotas d'un CADA à l'autre?
Non, c'est selon les places et les places disponibles. Dès qu'on a une place disponible, ça rentre dans les places disponibles nationales. Et en fonction des demandes qu'ils ont, ils nous envoient, alors principalement des familles. Des familles avec enfants.
D'accord.
Principalement.
Et alors, combien de temps en moyenne une famille va passer par le dispositif de l'association AMAR?
Alors, sur le CADA ou sur l'HUDA, ils sont en demande de protection et en règle générale, le délai de prise en charge est de 18 mois. Après, lorsqu'ils obtiennent le statut, on a une mission de 6 mois pour les accompagner dans leur première insertion en France. Mais effectivement, la demande de protection est encore très longue.
D'accord. Donc ces personnes arrivent à l'association Amar, vous leur permettez d'avoir un hébergement. Ces personnes, il faut rappeler qu'elles n'ont pas le droit de travailler. Hein, tant qu'une personne est demandeur d'asile, elle ne peut pas travailler, donc elle ne peut pas avoir de revenus.
Non, alors ça, c'est le gros problème, et c'est une de nos demandes et des demandes de tous ceux qui accueillent les demandeurs d'asile, c'est qu'ils aient accès au travail. D'abord parce que ça leur permet d'avoir des revenus, et puis ça leur permet de se reconstruire, parce que quand on reste 18 mois à attendre, bon, encore nous, au CADA, on a des animations, on a, mais ceux qui sont en dehors du CADA, enfin, qui sont hébergés comme ils peuvent, hein, ou par des assos, ou par des bénévoles, rester comme ça 18 mois, c'est extrêmement long. Alors que le travail, on sait que c'est un facteur de reconstruction de la personne. Donc, notamment dans la situation qu'on est à l'heure actuelle, avec l'afflux de réfugiés dus aux problèmes internationaux, je pense qu'une des premières mesures qu'il faudrait prendre, c'est leur permettre l'accès au travail. Alors, ce qu'ils nous disent, oui, mais vous comprenez, il y a beaucoup de chômage. Alors, si on donne du travail aux demandeurs d'asile, mais d'abord, il y a des postes disponibles, il y a des carrières où peu de personnes veulent y aller. Donc, vous savez, ils sont pas regardants. Hein, pour s'intégrer, ils sont prêts à prendre ce qu'ils trouvent. Hein. Et puis, le fait d'avoir des revenus, ils ne sont plus désassistés, et ces revenus, eh ben, ils les consomment en France. C'est pas de l'argent perdu.
Oui, parce que là, ne serait-ce que le loyer, donc, est payé par la dotation, qui va à l'association Amar. C'est l'association Amar qui paye.
C'est nous les locataires.
Hein. Et donc, que font, ces familles durant ces 18 mois? Vous les accompagnez? Est-ce qu'il y a des cours d'alphabétisation, des cours de civique, d'éducation civique pour apprendre comment fonctionne notre pays, tout ça?
Alors, concernant les personnes, les primo-arrivants qu'on a en CADA, effectivement, nous, on les oriente vers les associations montalbanaises qui disposent de cours de français, donc en fonction du niveau de la personne. Nous ne sommes pas autorisés à en dispenser. Voilà, sur les dotations globales de financement, il n'y a pas d'argent nécessaire pour le faire.
D'accord, les dotations, donc, c'est pour manger,
c'est
dormir...
L'hébergement, l'accompagnement social et l'accompagnement juridique. Les cours de français, non, n'y sont pas. Et donc, sur le CPH, ils sont intégrés dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration, donc, et c'est l'Office français de l'intégration et de l'immigration qui leur propose aussi d'aller vers des cours de formation linguistique. Avant, nous les dispensions en CPH, et là, pareil, la dotation a été diminuée, donc maintenant, ils vont vers l'extérieur.
D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils font pendant ces 18 mois
Alors, les enfants sont autorisés à être scolarisés, donc ça déjà, pour la moitié de notre public, on sait qu'ils sont scolarisés, donc ça veut dire de la halte garderie jusqu'à la faculté, hein, puisqu'on a tout niveau. Et ensuite, les adultes, soit c'est de l'occupationnel dans la journée, certains s'engagent dans le secteur associatif, hein, ils s'engagent comme bénévoles, hein, sur le secteur associatif montalbanais, soit alors nous leur proposons un certain nombre d'ateliers dans la journée, des ateliers où ils vont être informés de leurs droits et devoirs en France. Et ensuite, donc, comme là, au niveau de la journée Portes Ouvertes, vous allez voir, on a un artiste qui arrive du Bangladesh, qui, sa passion, c'est la photo. Donc lui, voilà, il passe de longues journées à faire de la photo, et on aura une exposition de 20 tableaux de cette personne-là. Voilà. Ensuite, c'est vrai que comme ils n'ont pas le droit au travail, leur journée est beaucoup occupée à aller faire en sorte de pouvoir nourrir leur famille. Hein. Donc nous, on leur verse une allocation mensuelle de subsistance, mais qui n'a pas été revalorisée depuis mars 2000.
Qui est de ?
Alors, ça dépend de la composition familiale, hein, voilà. Mais ça ne leur suffit pas pour nourrir leur famille. Donc, effectivement, ils sont obligés d'aller vers les associations humanitaires et caritatives. Et après, on a un accompagnement de santé aussi très important, puisque ce sont des personnes qui ont des parcours très fragiles, hein, qui arrivent de pays en guerre où ils ont été persécutés. Donc, il y a quand même la partie soins qui prend un temps important pour les adultes.
Un suivi psychologique, ça,
oui.
Oui.
Alors, on dispose d'un financement depuis quelque temps pour une psychologue interculturelle, et donc nous, on fait le premier diagnostic, et ensuite on les oriente vers effectivement les services de droit commun en psychiatrie. Oui, ça aussi c'est très important.
Oui, parce que vous devez rencontrer des personnes qui doivent arriver bien abîmées.
Ce sont des pays en guerre, donc effectivement, tout ce qui est lié à la santé, ils n'y ont plus accès depuis très longtemps, donc ils arrivent dans des conditions de santé très dégradées, avec des pathologies lourdes, voire tout ce qui était persécution et torture. Voilà.
On est en train de parler de l'association montalbanaise d'aide aux réfugiés. L'association Amar fait journée porte ouverte ce samedi à Montauban. Il y aura justement la veille, l'assemblée générale de l'association. On continue d'en parler avec Joëlle Gréder, présidente, et Sylvie Bernadet, directrice.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
L'association Moissac Culture Vibration présente le 19e Festival des Voix du 24 au 28 juin. Retrouvez des artistes prestigieux au cœur du patrimoine de Moissac. Flânez et profitez des spectacles avec Al Jarreau, Imouvrini, Moriarty, Les Balkans entre autres, mais aussi Les Voix du Monde avec El Cabrero et Trio Chemirani. Plus de 20 spectacles gratuits à Moissac. Boudou, Durfort, Lisac et La Française. Du 24 au 28 juin à Moissac, 19e Festival de la Voix, Festival des Voix, des lieux, des mondes. Infos et réservations sur moissac-culture.fr.
Événement portes ouvertes chez les maîtres du feu du 18 au 20 juin. Poêle à bûche et granulés Max Blanc, une garantie 10 ans, une qualité irréprochable, un style design rustique, épuré ou tout simplement le style qui vous plaît. Bûche ou granulé, le poêle Max Blanc, mixte sans électricité, vous apporte la chaleur dont vous avez besoin. Alors venez saisir les opportunités qui vous seront offertes pendant les portes ouvertes chez les maîtres du feu. Alba Sud Montauban du 18 au 20 juin, avec nocturne jusqu'à 22h le vendredi. Les maîtres du feu, offrez-vous l'excellence.
Jusqu'au 21 juin, l'association des commerçants de la ville de Castelsarrasin organise une grande tombola pour fêter tous les papas. Avec de nombreux lots à gagner, des cartes d'abonnement à l'année pour le rugby, des bons d'achat de 25 à 75 euros, un box évasion d'une valeur de 50 euros et encore bien d'autres surprises. Inscrivez-vous dès maintenant chez tous les commerçants de Castelsarrasin participants. Grande tombola organisée par l'association des commerçants de Castelsarrasin jusqu'au 21 juin. Venez nombreux, tirage au sort le 21 juin.
CFM à Moissac. Moissac. 90.7. 90.7.
Quelles sont les nationalités que vous rencontrez le plus en ce moment ?
Alors justement, en préparant l'assemblée générale là de vendredi, j'ai fait un petit tableau. On a sur 2014, on a accueilli 25 nationalités différentes. Alors autant jusqu'à présent, on était beaucoup sur les nationalités qui arrivaient des pays du Caucase ou bien de l'ex-Yougoslavie. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que de plus en plus, on a des pays d'Afrique noire qui arrivent, toute la corne de l'Afrique, l'Érythrée, le Soudan, et puis du Niger au Nigeria en passant par le Soudan, le Darfour, tout ce qui s'est passé au Darfour. Donc là, on a de plus en plus de populations qui arrivent d'Afrique noire.
Qui normalement, au départ, choisissaient plutôt des pays anglophones, j'imagine.
Oui.
Puisque l'Érythrée, c'est anglophone, le Nigeria aussi.
Maintenant, ils arrivent là où ils peuvent. Ouais. Voilà, on le voit dans les drames de la Méditerranée. Donc, et on a aussi l'Irak, la Syrie, le Bangladesh, le Sri Lanka. Voilà, donc ça donne 25 nationalités différentes accueillies en 2014.
Voilà, et la Libye arrive, j'imagine.
On n'a pas encore de Libye. On a eu Ukraine aussi, mais on n'a pas.
Vous me disiez, Joëlle Gréder, que vous aviez des difficultés financières, notamment suite à un manque de subventions non versées par l'État, de 23 000 euros.
En 2008, les services de l'État nous avaient demandé de faire une mission pour mieux suivre et accompagner les familles de vieux migrants, les Chibani. Donc c'est les services de l'État qui ont demandé à Amar de faire cette mission. Comme nous avons une bonne connaissance de l'immigration, c'est vrai que nous avons accepté. Et ils nous ont jamais, donc ils nous ont fait financer par des fonds européens, qui nous ont versé une première somme de 12 500 euros. Et la deuxième somme de 12 500 euros, on l'attend toujours. Mais non seulement ils nous doivent ces 12 500 euros, mais on a eu la mauvaise surprise de voir en 2013 arriver une demande de remboursement des 12 500 euros qu'ils nous avaient déjà versés. Donc, pour la première fois de l'avis de l'association, nos fonds associatifs vont présenter un déficit que je vais présenter à l'Assemblée générale de moins 24 000 euros.
Quel motif est invoqué pour vous demander de rendre cet argent ?
Alors, ils nous disent qu'on a bien fait le travail, ça on a les certificats, que le travail a été bien fait, mais que les critères de distribution des fonds européens, depuis 2011, ont changé. Et alors, nous sommes de nombreuses associations en France à être confrontées à ce problème, ce qui nous fragilise énormément.
D'accord. Et donc là, vous êtes en pourparlers. Quels sont les...
Alors, c'est des dossiers très compliqués, les fonds européens. Donc, nous avons dû prendre un avocat spécialisé parce que...
Parce que qui c'est qu'on a en face, là? On n'a pas...
Le ministère de l'Intérieur.
Voilà, on n'a pas de politique. On a des techniciens en face.
On a le ministère de l'Intérieur. Voilà, des techniciens du ministère de l'Intérieur en face. Donc, on a fait un recours administratif qui nous donne un peu de délai pour ne pas payer parce qu'on s'est dit, si on paye ça tout de suite, on le reverra jamais. Par contre, si on ne faisait pas de recours, on avait des pénalités de retard.
Oui.
Donc, on a fait un recours, mais il nous faut absolument une solution politique. Notre avocat nous a dit, il faut que ça se débloque politiquement. C'est-à-dire, il faut que l'État prenne la décision de tous ces dossiers qui sont en cours, de les régulariser. Après, qu'ils mettent de nouvelles règles, ça, nous, on n'est pas contre, mais que ceux... qui se sont engagés, ils payent leurs dettes. On n'a jamais vu qu'on demande du travail et après qu'on ne le paye pas, quoi.
C'était quoi ce travail exactement?
Alors, c'était une mission auprès des Chibani, des vieux migrants, notamment de faire un état des lieux, de comment ils étaient logés, s'ils percevaient leurs droits, etc. Et de former les personnels sociaux, les assistants sociaux des différents services pour les aider à prendre en charge ces populations ils ont des droits, mais ils n'y accèdent pas, ils ne demandent pas.
Vous écoutez CFM, c'est le MAG du Tarn-et-Garonne. On discute avec Joëlle Gréder, présidente de l'association Amar, et Sylvie Bernadet, la directrice de l'association Amar, justement, à l'occasion des journées portes ouvertes, enfin de la journée porte ouverte, ce sera samedi, et de la réunion annuelle, le conseil d'administration annuel, qui aura lieu, lui, samedi soir. Excusez-moi, vendredi soir. Un tout petit peu de musique et puis on revient dans un instant. Je vous livre une question comme ça vous donne le temps de la musique pour y réfléchir à une réponse. Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, en tant que spécialiste des migrants, ces histoires de quotas européens?
Californien, il s'appelle Alalas et c'était Add It All.
Alors, Joëlle Gréder, bonne ou mauvaise idée l'histoire des quotas de migrants européens?
Ce que nous on pense, c'est que sous forme de quotas ou de pas de quotas, il faut que les pays européens fassent un effort considérable pour accueillir tous ces migrants. On a une situation nouvelle et explosive. On les voit en Méditerranée. La Méditerranée devient un cimetière à ciel ouvert. Donc il faut vraiment que tous les pays européens nous fassions un effort pour accueillir momentanément ces familles qui arrivent de Syrie, d'Érythrée, de Irak, d'Afghanistan, enfin des pays où il y a une situation catastrophique. Et il faut faire en sorte que ce ne soit pas seulement l'Italie, la Grèce et l'Espagne qui sont les pays où ces migrants arrivent parce que c'est le plus près de leur pays, supportent l'ensemble de ces problèmes-là. Donc la première des mesures qu'il faudrait faire, c'est supprimer les accords de Dublin. C'est-à-dire, les accords de Dublin, si vous arrivez en Italie, que vous fassiez votre demande d'asile en Italie, vous êtes obligé de rester en Italie. Donc, ce qui consacre, ça fait un effet de masse.
Ils sont obligés de rester là.
Donc, il faut enlever ça pour qu'ils puissent circuler. Parce que c'est pas forcément, il y en a qui veulent aller en Italie, il y en a qui veulent aller en France, d'autres en Angleterre.
Il faudrait une sorte de vous appelez ça l'OFI en France, qui redirige vers les différents CADA au niveau national. Il faudrait qu'il y ait ça au niveau européen, en quelque sorte, c'est ça?
Oui, déjà qu'on les accueille, parce que pour le moment, il n'y a que de la répression. Il faut qu'on les accueille et qu'on ait des mesures exceptionnelles dans cette période exceptionnelle que nous vivons.
En fait, ce dont on se rend compte, c'est que c'est une population qui ne souhaitait pas partir de leur pays d'origine. Donc, il y a aussi besoin d'un regard sur comment la communauté internationale se met d'accord pour une stabilité dans ces pays-là. Là, aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Et ensuite, on a aussi le souci ici en France de la reconnaissance de statut de réfugié, puisqu'aujourd'hui, on a 27% en 2014 de reconnaissance du statut de réfugié. Donc, ça veut dire 73% de cette population-là qui est déboutée de cette demande d'asile et qui n'est pas autorisée à rester sur le territoire, alors que l'Allemagne fait le choix de 58% et intègre plus facilement ces populations-là. Donc, voilà. Après, on est vraiment sur des choix politiques et stratégiques, à la fois de façon internationale et puis de façon d'un projet politique d'accueil sur un pays, quoi, et sur un territoire qui est européen, qui est un tout petit territoire. Et on le voit au niveau international, la majeure partie des réfugiés ne sont pas accueillis en Europe, on est bien d'accord, puisque n'arrivent que vers nous ceux qui ont pu effectivement arriver et financer le passage. Tous les autres sont dans les pays limitrophes, hein, le Pakistan, l'Iran, accueillent énormément de réfugiés, quoi.
Justement, là-dessus, on entend parfois des commentaires du genre ceux qui arrivent jusqu'ici, soit ce sont des vrais réfugiés politiques, mais il y a aussi beaucoup de banditisme parce que tout le monde ne peut pas se payer des sommes faramineuses pour pouvoir faire la traversée jusqu'ici.
Je pense que ce sont effectivement des familles qui peuvent se permettre de payer un passeur. Mais après, elles s'endettent aussi. Hein. Elles n'ont pas forcément l'argent, mais elles s'endettent et une fois établies en France, elles doivent rembourser. Voilà.
Alors, donc, l'association Amar ouvre ses portes samedi. Qu'est-ce qui va se passer? Ça s'adresse à qui? À tout le monde? Votre objectif, là, c'est que tout un chacun, tous les Montalbanais, tous les Tarn-et-Garonnais puissent venir vous rencontrer et voir réellement comment vous fonctionnez, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Ouais. Nous demandons, nous invitons tous ceux du Montauban, du Tarn-et-Garonne, qui sont intéressés par ces rencontres, à venir passer un moment avec nous samedi. Donc, ils rencontreront les résidents et ils rencontreront aussi les salariés d'Amar. Alors, notamment le matin, avec des ateliers cuisine, qui sont donc où on peut apprendre à faire des plats du monde entier avec les résidents et que nous partagerons ensemble à midi autour d'un repas. Alors pour ça il faut s'inscrire parce que bon, il faut quand même que nous puissions gérer. Et puis c'est ouvert toute la journée.
Alors toute la journée, on a prévu donc des expositions. Donc tout à l'heure, je parlais de l'exposition de cet artiste que nous avons actuellement en prise en charge, qui est photographe. On a fait venir aussi une exposition de Migre Europe, une exposition en fait qui circule actuellement un peu partout. Donc elle arrive de Paris, elle doit repartir sur Bruxelles. En fait, Migre Europe est l'observatoire des frontières. Donc en fait, on va se retrouver avec à la fois des panneaux expliquant l'immigration aux frontières européennes, mais aussi dans l'ensemble des frontières, ou du moins ce qu'il en est aujourd'hui de cet état-là. Et donc, pour nous, c'est quand même une exposition très didactique et on voudrait qu'un maximum de personnes puissent y avoir accès pour un peu comprendre les causes des départs et aujourd'hui, cette migration internationale, qu'est-ce qu'elle donne à partir des zones de conflit.
Et l'après-midi, donc on a des ateliers pour les enfants. Alors ça aussi, c'est tous ceux qui ont des enfants, ils peuvent venir parce qu'ils vont partager des moments avec des enfants venus des quatre coins du monde, avec notamment un atelier maquillage, des jeux. Et nous terminons à 18h par un apéritif où tout le monde est invité, un apéritif à musique, où là aussi on aura un temps de partage entre tous.
Avec Clara Sanchez.
Justement, Clara, elle a eu un accident de...
Voilà.
Donc ça sera Los Dos.
D'accord, qu'on connaît bien aussi. Los Dos, c'est très bien, ne perdez pas au change. Voilà, donc rendez-vous vendredi soir pour l'AG de l'association Amar, et puis samedi, toute la journée, à partir de 10h, c'est 24 rue Cossat à Montauban, le centre Amar. Et puis toutes les infos sont sur www.centreamar.org. Joël Gréder, Sylvie Bernadet, merci d'être venu en parler sur CFM Radio.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs, CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
C'est l'heure du coup de projecteur montalbanais avec Jonas.
Le festival de la sculpture, c'est du 15 au 28 juin dans 6 lieux différents de la Cité d'Ingres. Hier, nous sommes allés à la rencontre d'Anthony Holloway et de sa fameuse pyramide. C'était au Jardin des Plantes. Et bien pas très loin, un autre artiste se prépare activement à aller déambuler dans les rues. Louis Perrin réalise ce que l'on peut appeler de l'art en mouvement. Et pour le festival, l'artiste se promène avec une œuvre assez particulière.
Les bouteilles en plastique sont reliées à la cage du caddie par des fils de fer galvanisés. Donc c'est une matière qui est assez proche. Donc c'est vraiment le prolongement du caddie, comme si ça poussait comme ça. Il suffirait d'arroser le caddie et il y aurait comme ça des espèces de belles fleurs ou de feuilles qui pousseraient, quoi. Voilà. Les gamins, ils me disaient, mais... on aimerait en avoir un. Ah, je dis, mais vous en avez certainement à la maison, si vous mettez un bout de fil de fer, je vais vous montrer comment on fait. Et ils disent, oui, mais il n'y a pas le gaz dedans. Je dis, mais il n'y a pas de gaz. Alors que je n'avais pas fait ça pour créer l'illusion d'un ballon. Moi, je juste, disons, donner des ramifications un peu différentes du caddie. On s'attend déjà au moins qu'il n'y ait pas d'indifférence, quoi. Quand on fait quelque chose comme ça, qu'on va vers les gens, on s'attend à des rencontres. Et après la rencontre, mais le problème c'est que c'est les gens qui la font. Tant que moi, évidemment, c'est moi qui la provoque en amenant quelque chose, mais c'est aussi les gens que je rencontre. Et là, on peut pas écrire d'avance, c'est pas quelque chose, c'est la rencontre humaine. Ça, c'est vachement sympa. C'est ce que je cherche aussi, c'est à rencontrer du monde. Ça, c'est pour soigner mon agoraphobie peut-être.
Pour suivre l'actualité de Louis Perrin, un site internet artzep.com. Pour la programmation du festival, un site internet également espacebourdelculture.org.
Merci Jonas. Si vous avez raté toute ou partie de cette émission, vous la retrouvez demain à midi et en podcast quand vous le voulez sur cfmradio.fr.